France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h21. YouTube fête ces jours-ci ses 20 ans. Une plateforme devenue incontournable. C'est le plus grand service de vidéos numériques au monde. Et il menace désormais les titans de la télévision aux États-Unis comme en France. Bonjour Franck Robillard.
Bonjour.
Vous êtes professeur en information et communication à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous avez coécrit un livre qui s'intitule La machine YouTube, coécrit avec...
Avec ma collègue Yvette Assilameou-Kunz.
Alors pour bien mesurer le poids de YouTube, quelques chiffres. Il y a combien d'utilisateurs dans le monde ?
Dans le monde, il y a plusieurs milliards d'utilisateurs. Et en France, on estime qu'il y a à peu près 50 millions d'individus.
50 millions ?
Oui, qui se connectent à YouTube chaque mois.
Chaque mois, on est 68 millions, donc ça fait vraiment très grosse majorité. Et avec de tels chiffres, évidemment, YouTube se présente comme la première télé de France. Vrai ou faux ?
Alors, moi je dirais plutôt que c'est un support numérique de masse, dans la mesure où c'est vraiment un support omnibus, puisqu'il y a à la fois des contenus qu'on peut trouver à la télévision, comme de la fiction, de l'information, mais il y a aussi un contenu qu'on a tendance à oublier, mais qui représente 25% des usages, c'est la musique. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent YouTube non pas pour regarder des vidéos, mais pour écouter la musique qui accompagne la vidéo en bruit de fond, en quelque sorte.
Donc c'est plus que de la télé.
Tout à fait. C'est...
Et aux États-Unis aujourd'hui, YouTube se regarde plus à la télé, d'ailleurs sur des écrans de télé, que sur les téléphones. Est-ce que c'est pareil en France ?
Alors effectivement, ce qui s'est passé au niveau des contenus YouTube, c'est qu'il y a eu une sorte de dualisme qui s'est opéré au niveau des formats, qui ont suivi à la fois le développement de la consultation des contenus sur smartphone, donc avec des contenus qui vont être plutôt courts, qui sont là aussi pour concurrencer les plateformes notamment chinoises que sont TikTok ou les autres plateformes états-uniennes comme Instagram ou Snapchat par exemple. Et puis par ailleurs, là on est plus sur le volet plateforme de vidéos à la demande comme Netflix ou télévision, des formats plus longs qui s'adaptent au format télévisuel comme par exemple le documentaire de 52 minutes ou le reportage de 26 minutes.
Donc ça veut dire que ce soit sur les formats ou les contenus, l'expression est peut-être pas très jolie, mais je peux dire que YouTube ratisse large.
Exactement.
Plus que n'importe quelle autre plateforme aujourd'hui.
Tout à fait.
Et à long terme, est-ce que vous pensez que YouTube va écraser les chaînes de télé classiques ?
Alors ça, c'est difficile de le prédire. Parce qu'il y a tellement de personnes.
Madame Irma.
Voilà. Il faut se souvenir, par exemple, pour prendre un peu de recul, de ce qu'était le slogan de YouTube il y a 20 ans à son départ. C'était « Broadcast yourself », c'est-à-dire « Diffusez-vous vous-même ». L'idée, c'était que les individus ordinaires allaient pouvoir créer eux-mêmes des vidéos et les mettre en ligne. Or, aujourd'hui, on se rend compte que c'est un usage qui est beaucoup plus du côté de la réception tout simplement du visionnage de vidéos et non pas de la production par les individus eux-mêmes. Donc moi, je serais très prudent par rapport à l'évolution à long terme.
Et la toute première vidéo, j'ai retrouvé, c'était un clip qui s'intitulait « Me at the zoo », c'est ça ?
Oui, c'est un des cofondateurs de YouTube qui s'était filmé en train de visiter un zoo.
Ouais, devant les éléphants du zoo de San Diego. Le profil des utilisateurs, c'est qui ? C'est quoi ? C'est qui ? C'est vous et moi ?
Alors, il a beaucoup évolué, parce qu'effectivement, en touchant 50 millions de personnes à travers la France, évidemment, on touche un peu tout le monde. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'après les derniers chiffres qui ont été donnés par l'Arcom et par Médiamétrie notamment, on se rend compte que 43% des utilisateurs de YouTube en France ont plus de 50 ans. C'est exactement le même pourcentage que pour la télévision. Donc finalement, on a un profil qui s'est beaucoup diversifié au niveau de l'âge.
Ça ressemble quand même beaucoup à une télé.
Oui, quand même.
aujourd'hui, donc, on trouve absolument de tout. Il y en a pour tous les goûts sur YouTube en termes de contenu.
Tout à fait. Alors ça pose des problèmes qui sont quand même importants au niveau de la régulation.
C'est-à-dire ?
Parce que, si vous voulez, par exemple, si on prend des télévisions qui sont largement accompagnées au niveau de la régulation, notamment par les autorités publiques, il y a quand même une sorte de pas de contrôle, mais en tout cas une sorte d'accompagnement déontologique. Il y a des règles qui sont en place. Alors que pour YouTube, souvent on a un statut d'hébergeur qui fait que les contenus vont être contrôlés a posteriori et non pas a priori. Donc souvent, c'est après la diffusion en ligne qu'on va se rendre compte que certains contenus sont illicites. Ce qui pose quand même un problème avec une plateforme qui touche autant de personnes.
Et ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes de manipulation, de désinformation, un manque de modération, comme il peut y avoir sur d'autres plateformes ou d'autres réseaux ?
Alors, c'est d'autant plus problématique que ça ne vous a pas échappé que dernièrement, aux États-Unis, les grands dirigeants de la tech, et notamment Sundar Pichai, le PDG d'Alphabet, qui est la maison mère de Google, sont engagés dans une voie qui est très, très ouverte à à la libre expression, mais une libre expression qui peut favoriser des contenus de nature parfois tout à fait délétère.
Et il y a un exemple très récent, c'est que Google, donc le propriétaire de YouTube, s'aligne finalement sur les demandes de Trump. Là, Google Maps qui a changé le nom du Golfe du Mexique pour le changer en Golfe d'Amérique, ça c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant ?
Non, alors en fait il y a quand même un précédent, puisque ça on l'a un peu passé sous le silence, mais dès 2023 par exemple, YouTube a accepté qu'on puisse diffuser des vidéos qui remettaient en cause le verdict de l'élection de 2020. Donc il y avait quand même un précédent, mais disons que maintenant la porte est grande ouverte avec la situation politique actuelle aux États-Unis.
Et son modèle économique, ça reste la pub ?
Oui, très largement. Alors c'est une entreprise qui est extrêmement profitable, c'est 31 milliards de dollars à travers le monde de publicité pour YouTube. Pour donner une petite comparaison, c'est 20 fois plus que le plus grand groupe audiovisuel de France, c'est-à-dire TF1, qui a 1,5 milliard de revenus publicitaires. Et puis surtout, comme je disais, Alphabet, la maison mère, c'est une entreprise très profitable puisqu'elle réalise 25% de profit avec, il faut jamais l'oublier, un évitement fiscal qui est très important, à la fois en Europe, en basant ses locaux à Dublin, c'est-à-dire dans le pays de l'UE qui est le plus favorable à l'évitement fiscal, mais aussi aux États-Unis, ça aussi on l'oublie parfois, dans le Delaware, qui est l'État qui est le plus favorable également fiscalement.
Et tout ça donc en 20 ans avec ce YouTube qui a été inventé lors d'un dîner entre amis, c'est vrai ou c'est pour la légende ça, ce qu'on dit ?
Alors c'est une légende, comme souvent dans les créations d'entreprises technologiques, une légende pour accompagner les développements de ces sociétés.
Merci beaucoup Franck Rebillard et je renvoie nos auditeurs à votre livre La machine YouTube qui est paru chez CF Édition. Merci d'être venu ce matin. Merci. En direct sur France Inter.